9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel. Selon le chiffre, une étude publiée par Médiamétrie à l'automne dernier, l'écoute du média radio reste très importante en voiture. En effet, 72% des individus écoutent la radio dans leur voiture. Chers auditeurs, donc si vous nous écoutez en ce moment même dans votre véhicule, j'espère que vous passez un bon moment, que vous n'êtes pas trop tendu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'entre insultes et civilité, faut pas que je m'énerve, la voiture transformerait les plus calmes en colériques et les plus colériques en véritables agresseurs. Question, la voiture nous rend-elle fous? C'est la thèse posée par un reportage d'Envoyé Spécial diffusé ce soir sur France 2. Alors, si vous êtes actuellement au volant, détendez-vous et faites le vide. Vous êtes en retard à votre rendez-vous, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas griller un feu pour 5 minutes. Vous êtes chafouin, vous avez manqué les audiences de Louise Bernard en début d'émission. On s'occupe de tout. Elles seront publiées sur le compte Instagram d'Europe 1 et disponibles en podcast. Ne vous énervez pas, Culture Média est là pour vous. Je change de ton pour dire bonjour Olivier Sibille.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de ce reportage « La voiture nous rend-elle fou ?» C'est sur, ce soir sur France 2 dans le cadre d'Envoyé spécial. Vous êtes venu comment ce matin ?
Ce matin, je suis venu en vélo, mais j'ai un peu tout testé moi dans Paris. J'ai longtemps eu un scooter, j'en avais marre des bouchons. Avant ça, j'ai même eu une voiture. Je prends le métro, donc je suis un petit peu multimodal.
Et est-ce que vous êtes arrivé détendu ? Est-ce que tout va bien ou est-ce que vous avez droit à des queues de poisson, à des insultes, à des doigts d'honneur ?
Ce matin, ça s'est à peu près bien passé parce qu'il était un peu plus tôt que d'habitude, mais à peu près chaque jour en vélo, je vois des gens qui s'interpellent, qui s'invectivent, voire plus.
Vous répondez un peu à la question qu'elle est arrivée. Pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Est-ce que les incivilités au volant ont augmenté ? Quel constat avez-vous ? Fait.
C'est très dur de chiffrer les incivilités au volant parce qu'en fait la sécurité routière ne les répertorie pas. Elle répertorie les excès de vitesse, l'alcool, etc. La colère, il n'y a pas de radar à colère en fait sur les routes. Moi ce qui m'a donné envie de faire ce reportage, c'est mon ressenti au quotidien. Moi déjà j'ai senti que depuis les confinements, enfin j'avais l'impression que les gens s'énervaient de plus en plus, notamment dans Paris. Et puis il y a un fait d'actualité, il y a pile un an, il y a eu un procès très médiatique qui a eu lieu à Pau. C'est un chef d'entreprise, 62 ans, un monsieur sans casier judiciaire, aucun problème avec la justice, qui un jour s'est invectivé avec un autre automobiliste qui n'avait pas démarré assez vite au feu rouge devant lui. Le ton est monté, ils ont failli en venir aux mains, il a sorti un couteau, il l'a poignardé, l'homme est mort, il s'est pris 12 ans aux assises.
Un chiffre que vous donnez, 65% des automobilistes n'ont pas un couteau, mais reconnaissent injurier, insulter les autres. Alors, il y a des incivilités, mais parfois ça tourne carrément à la violence, comme dans le cas que vous racontez. Votre sujet fait une revue de presse saisissante, je cite, Saint-Malo, hystérique, les deux sœurs étranglent l'automobiliste avec son écharpe. Autre titre, Toulouse, j'ai cru que j'allais mourir pour une histoire de stationnement. Autre titre, Bordeaux, violemment frappé car il traversait trop lentement. Et enfin celui-ci, Lyon, condamné pour avoir passé à tabac un automobiliste mal garé. Quel est le profil de ces gens qui passent à l'acte? C'est monsieur et madame tout le monde?
Mais il y a les deux en fait. Alors c'est la question évidemment qu'on se posait. En fait, on a interrogé un certain nombre de psychologues qui travaillent sur la colère au volant. Moi j'ai découvert qu'il y a des spécialistes de la colère au volant depuis des années. Ce qu'ils disent en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont violents dans la vie, qui transgressent les règles chez eux, dans la rue. Ces gens-là, au volant, ils seront aussi violents. Mais ça représente en fait qu'une minorité des conducteurs. Il y a aussi beaucoup de personnes, et ça c'est toutes les études qui le montrent, qui changent de comportement au volant. Alors qu'ils vont pas forcément aller tuer quelqu'un, aller le frapper, mais qui injurient, qui s'énervent. Et c'est monsieur et madame tout le monde en fait qui nous intéressait.
Alors vous évoquez plusieurs histoires qui auraient pu très très mal se passer, comme celle d'Antoine et Wendy racontées. Que leur arrive-t-il ?
Alors Antoine et Wendy étaient au volant de leur camionnette à côté de Montpellier il y a quelques mois. Ils déménagent, tout va bien. Et devant l'autoroute, il y a un automobiliste qui est entre deux fils, qui est en train d'envoyer un SMS sur son portable. Donc ils disent bon, on va le doubler, on fait un petit coup de klaxon, voilà.
Pour dire qu'on existe.
Voilà, enfin c'est une très banale. Et alors là, il y a un enchaînement de faits. Alors on saura jamais exactement ce qui s'est passé parce qu'on n'y était pas. Visiblement, il y a eu des échanges de signes, peut-être des injures, on ne sait pas. Mais alors l'automobiliste commence à les prendre en chasse. Ils sortent de l'autoroute, ils sont bloqués dans les bouchons. Ils remontent via une voie bus, ils s'arrêtent à leur hauteur, ils sortent de sa voiture et ils commencent à frapper la jeune femme.
C'est-à-dire l'automobiliste les a retrouvés.
C'est ça, il les a pris en chasse.
Alors qu'ils pensaient s'en être défaits.
Exactement. Enfin, scénario de film. D'horreur, quoi. Il descend de sa voiture et il a fracassé la mâchoire de cette jeune femme qui avait 26 ans, double fracture de la mâchoire. Ça fait 9 mois et elle s'en remet à peine. Elle vient juste de reprendre le boulot, elle est traumatisée.
Et elle dit qu'elle sera handicapée à vie. Le chauffeur a été identifié et le jour du procès, vous étiez là avec votre caméra, votre équipe. Il a accepté de répondre à vos questions. Il est flouté, mais il accepte quand même de répondre.
Oui,
Les premières insultes ont été prodiguées par la femme. C'est parti vraiment de ces insultes et de cette incompréhension qui... J'ai été dépassé par mes gestes, par mes émotions, partout. Du moment où je suis sorti de mon véhicule et que je suis rentré dedans, c'est un trou noir. J'étais pas conscient de ce que j'ai fait, c'est pas moi. Moi, je suis une personne qui prend soin des gens.
Vous vous définissez pas comme quelqu'un de violent?
Absolument pas. Je suis pas quelqu'un de violent, et ni quelqu'un de drogué, ni quelqu'un qui veut du mal à autrui. Quand on est dans une voiture, on est dans un habitacle, il faut fermer les fenêtres. Si on s'embrouille, il faut foncer tout droit et ne pas calculer les personnes autour, parce que sinon ça peut dégénérer. Je le regrette énormément, et si je pouvais appuyer sur un bouton pour faire marche arrière, je le ferais, parce que ça tient qu'à 5 minutes.
Alors je ne sais pas, mais à l'entendre, on dirait presque, on voit la séquence, des éléments de langage. Est-ce que vous l'avez pensé, trouvé sincère ?
Eh ben, je suis partagé. Je suis un peu comme vous, évidemment. Il était au tribunal, donc je pense qu'il avait préparé son discours avec son avocat. Après, moi, je lui ai longuement parlé avant qu'il accepte l'interview. En fait, rien ne le poussait à accepter cette interview. Et je l'ai senti vraiment blessé de se retrouver au tribunal. Et je pense qu'il pensait que c'était pas sa place, en fait, et qu'il était... Non, je pense qu'il était sincèrement aussi choqué de ce qui lui était arrivé. Il dit qu'il s'est retrouvé dans un trou noir, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé.
Et ce n'est pas terminé, puisqu'il a été condamné à 8 mois de prison ferme. On a un casier judiciaire pour 8 mois de prison ferme ?
Il avait un casier judiciaire vierge. Et ça va être aménagé probablement sous forme de bracelet électronique, mais c'est 8 mois de prison.
La question qu'on se pose, c'est pourquoi on sort de ses gonds, que cette personne soit sincère ou insincère. Il y en a plein qui étaient sincères et qui sortent de leurs gonds. Pour quelle raison? Vous êtes allé à la rencontre d'un psychologue. Il nous compare presque à des enfants. Culture Média continue. On est avec Olivier Sibille. La voiture ne rend-elle fou? La réponse, oui, parfois, souvent.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
La voiture nous rend-elle fou? C'est la question que pose et à laquelle répond ce reportage d'Envoyé spécial ce soir sur France 2. Reportage signé du réalisateur Olivier Sibille qui est dans notre studio. On a vu les causes, les conséquences de ce que pouvait créer cet énervement au volant, mais la question est celle-ci: pourquoi on sort de nos gonds et on met tout le monde dans ce panier lorsque nous sommes au volant? Olivier Sibille, vous êtes allé à la rencontre du psychologue Jean-Pascal Assailly. Il est expert pour le Conseil National de la Sécurité Routière. Il vous raconte notamment comment on perd tout sur moi et pourquoi nous changeons d'état, il va même plus loin, lorsque nous sommes derrière un volant.
En voiture, notre inconscient nous ferait même régresser pour nous comporter comme des enfants qui ne supportent plus aucune contrainte.
Ce que vous voyez bien dans les comportements des conducteurs, souvent, c'est que, d'une part, ils vont vous coller à l'arrière, et si vous ne dégagez pas vite, alors ils vont klaxonner. Ensuite, ils vont se mettre à vous insulter, mais ça, vous l'entendez pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de vous dire, ce rouleau de bitume-là qui est devant, toi, il n'est pas à toi, il est à moi, donc tu dégages.
Et chacun a cette impression, évidemment. Jean-Pascal Assailly vous donne quelques clés sur notre comportement au volant que vous comparez vous-même à celui qu'on aurait sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette comparaison ?
En fait, il nous a fait remarquer, et ce qui est tout à fait logique, c'est que la voiture nous isole. Les voitures modernes, aujourd'hui, il y a des vitres un petit peu teintées.
On c'est a interdit maintenant.
Enfin, je veux dire un tout petit... Enfin, oui. On a du mal à voir le regard des automobilistes en face. On a la radio, Europe 1, voilà... Il y a moins de bruit, donc sa thèse, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme dans une bulle. Et dans une bulle, c'est plus facile d'aller insulter la personne si on la voit pas en face. Là, vous êtes en face de moi, je vais peut-être être un peu plus sur la réserve. On se regarde, ça peut désamorcer le conflit. En voiture, lui, il dit que c'est complètement différent.
Et puis il y a aussi la densité du trafic. Est-ce que Paris, parce qu'il y a beaucoup d'images de Paris en début de votre reportage, est fidèle à sa réputation en matière de bouchons et d'incivilité?
Ce qui ressort beaucoup, nous, des gens, des automobilistes qu'on a pu rencontrer, c'est qu'ils ont l'impression que c'est de pire en pire, que... Non, mais...
Je souris parce que ça devait être apaisé. Tout ce verbiage... Vous savez, avant, il y a quelqu'un qui s'occupait des transports. Maintenant, on dit plus transport, on dit mobilité. Mais avant, on pouvait dire les transports, c'est de la... On peut pas dire les mobilités, c'est de la... Il y a tout un verbiage, une novlangue autour des transports exaspérante.
Après, ça c'est des questions politiques, de savoir s'il faut plus de vélos, plus de voitures, c'est pas à moi d'en juger. Le constat, c'est qu'on est sans doute dans une période de transition. Nous, dans notre imaginaire, la voiture, ça a toujours été les grands espaces, la liberté. Vous voyez, les pubs pour les voitures, on est sur des belles voitures en bord de mer ou dans le désert du Nevada, il y a personne. Là, dans Paris, on n'est plus du tout dans ça. Donc, ce que disent les psys, c'est qu'en fait, la voiture, c'est de plus en plus un lieu de frustration, en fait, tout simplement.
Pourquoi ce choix de ne pas interroger des maires, des responsables des transports des grandes villes?
C'était pas notre propos, en fait. Nous, on voulait pas dire qui a raison, qui a tort. On voulait juste essayer de comprendre pourquoi on perd notre contrôle quand on est au volant.
Là où votre reportage est absolument édifiant, c'est qu'on découvre qu'il n'y a pas que dans les grandes villes que les incivilités et la violence apparaissent au volant. Vous avez rencontré Michael dans les Charentes, c'est un cycliste. Il vous emmène sur une route complètement perdue au milieu de la campagne. Il n'y a rien devant, rien derrière, rien à droite, rien à gauche. Et c'est sur cette route qu'il a vécu une très violente altercation avec un entrepreneur qui était dans son camion. Le camion arrive face à lui à toute vitesse. Il lui fait signe de ralentir très gentiment. Le camion continue de foncer sur lui et il s'écarte. Il termine dans les champs. Puis le camion va revenir derrière lui et le percute violemment. Je ne dis pas ça, c'est pas un récit. Il avait la petite caméra piéton qui documente tout. Il filme cette scène donc avec cette caméra sur sa veste. Vous allez entendre le bruit de sa chute, puis les coups et les insultes qui vont suivre.
Qu'est-ce qu'il y a à me faire signe de quoi tout à l'heure?
Tu te rendais compte à quel
point? Il y a quoi depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que tu viens de me casser les couilles? Tu pèches de quoi? Je vais te péter une branlée dedans!
Il m'a mis un coup et ça a cassé ma caméra. Je ne pouvais pas me relever parce que j'étais tenu par mon blouson. Et ils en ont profité pour m'en mettre plein la gueule, quoi. Ils m'ont mis des coups dans le nez, dans les oreilles.
Ça a duré longtemps?
Ça m'a semblé durer une éternité. J'ai eu peur de qui me tue, quoi.
Le conducteur a été identifié, il était avec une jeune personne qui était son fils, vous avez retrouvé l'adresse, vous êtes allé, vous avez filmé son fils en caméra cachée. Où en est cette histoire?
Ils vont être jugés à la fin du mois, là. Le procès, l'audience a été déjà reportée une fois, elle est prévue le 23 juin.
Voilà, et vous avez été très très gentil parce que vous avez flouté évidemment les visages, parce que si on avait reconnu le visage du fils, c'était le shitstorm sur les réseaux sociaux.
On est obligé, là, on peut pas, il y a un petit problème légal, on peut pas
évidemment,
faire ce qu'on veut.
Évidemment, on voit de plus en plus d'images de scooters, de vélos qui se filment sur les réseaux sociaux. Pourquoi les gens filment les trajets? Parce qu'ils ont peur?
Mais je crois oui. Enfin, moi, tous les cyclistes que j'ai pu interroger, rencontrer, disent qu'au départ, ils filmaient pour illustrer leur balade et que c'est de plus en plus une question de sécurité, en fait. Ils se sentent en danger.
Je vais vous poser la question inverse, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que les cyclistes n'ont pas une part de responsabilité, les scooters, les piétons, les trottinettes, qui font aussi un peu n'importe quoi et qui ont l'impression que la chaussée est livrée à leur liberté?
Ah, mais bien sûr, c'est sûr et certain qu'il y a des cyclistes qui font n'importe quoi. Enfin, on fait témoigner une association de cyclistes, d'ailleurs, qui dit pas le contraire dans le reportage. Il dit si on veut se faire respecter par les voitures, il faut commencer par être irréprochable. La seule différence, c'est que en vélo, on est vulnérable. Donc, si vous rentrez dans un autre cycliste avec votre vélo, il peut y avoir des petites blessures. Mais si vous rentrez avec votre voiture dans un cycliste, les conséquences vont être beaucoup plus dramatiques.
La voiture nous rend-elle fou? C'est un reportage d'Envoyé Spécial signé par vous, Olivier Sibyl, à voir ce soir sur France 2 d'Envoyé Spécial. Merci d'avoir été avec nous. Et je précise qu'au programme, il y a également un reportage sur la détention des armes en France. Merci d'avoir été avec votre vélo dans ce studio en direct. Enfin non, le vélo, il est garé en bas. Il n'est pas dans le studio. Dans un instant, on va parler de l'émission sportive du dimanche soir qui existe depuis 89. Sport 6, émission qui revient sur toute l'actu du sport. C'est la même émission et c'est le même créateur, c'est la même voix off, c'est Stéphane Tortora. Il sera dans ce studio. À tout de suite sur Europe 1.
Philippe Blondel, Culture Média, sur Europe 1.